OK. L'un des textes clés sur l'unité dans la Bible, c'est le texte de Philippiens au chapitre 2, et vous connaissez très bien ce texte parce que cela fait partie d'un hymne ancien et il n'y en a pas beaucoup dans le Nouveau Testament, dans le cadre du Nouveau Testament. C'est un des magnifiques qui parle de la descente de Jésus-Christ et son élévation. Mais c'est adressé très particulièrement aux leaders. Et on va commencer à suivre le texte tel qu'il est. Et vous allez voir, j'essaie d'aller rapidement. Toute consolation de l'Église, mais aussi celle des leaders, vient du Christ avec la condition de l'unité. Donc s'il y a quelque consolation en Christ, on ne peut pas faire autrement. On n'a pas d'autre. S'il y a quelque soulagement dans la charité, donc c'est l'agapé qui va nous ramener le soulagement. Le soulagement ne viendra pas par la sagesse humaine de quelqu'un. Moi, je suis vraiment désolé quand je comprends que pour les gens, le leadership, c'est la technique. Ça, je déteste cela. Parce que, ou quand les gens disent, c'est naturel. Si tu es naturellement un leader, ça va marcher. Si tu n'es pas, ça ne va pas marcher. Ben, moi, je dis, c'est complètement déconnecté. Peut-être dans le monde, ça peut fonctionner. Mais pour l'Église, ça ne fonctionne pas du tout, du tout. C'est que, si on parle de la miséricorde, si on parle de la charité, si on parle du Christ, on peut parler de l'unité. Mais si on ne parle pas de cela, ben, il n'y a pas d'unité. C'est le Christ qui est garant de l'unité, c'est lui qui est la force de l'Église et c'est lui qui procure cette unité. Donc, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a le soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, ensuite vient tout le reste, tout ce qui suit. Donc, les gens disent, c'est presque irréalisable. Et je me rends compte que je vais m'arrêter là pour dire ce que j'ai commencé. J'ai parlé dans une assemblée des gens très haut placés, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 semaines, et j'ai parlé sur l'importance de l'unité. Et quelqu'un avait dit, mais n'oubliez pas, ce n'est pas l'uniformité, mais l'unité. C'est comme pour dire, ce que tu as dit, c'est bien beau, mais on a quand même le droit de... Et ensuite, j'ai fait mon discours après, parce que la remarque était là, et ça m'a donné l'occasion de le faire. Imaginez maintenant l'univers et Dieu lui-même, au début de l'origine du mal, tout au début. On se rappelle de beaux textes de patriarches et prophètes, le chapitre sur l'origine du mal, bien, bien, bien expliqué. Imaginez cette scène-là. Dieu qui a créé un univers infini, vous êtes d'accord avec moi? C'est un Dieu avec une puissance infinie. Ce Dieu-là pouvait dire, OK, Lucifer, l'ange de lumière, de fils de l'aurore, etc., tout ce qu'on voudra, je me rends compte que tu n'acceptes pas mon autorité. OK, vous êtes entière, on partage l'univers et je vous donne entière. L'infini divisé par toi, les mathématiciens nous disent, c'est toujours l'infinité. L'infinité divisé par, multiplié, donc divisé par 3, multiplié par 2, c'est toujours 2 fois plus, mais c'est toujours infini. Donc, on va faire un mur, faites ce que bon vous semble. Comme disent les Français, fichez-nous la paix. Non, je rigole, mais c'est un peu pour vous donner l'illustration. Dieu pouvait dire, allez-y, vous voulez la liberté, vous voulez faire ce que vous voulez, faites-le. Dieu pouvait toujours avoir l'infinité, parce qu'il est tout puissant, il peut tout faire. Il peut imaginer même un autre univers invisible pour les autres, etc. On pouvait s'imaginer toutes sortes de scénarios. Mais tous ces scénarios ne marchent pas pour une simple raison. C'est que l'amour parfait de Dieu, l'agapé, ne peut pas exister dans la division. Ça ne marche pas. C'est incompatible. Et c'est la raison pour laquelle, parce que la division provoque la souffrance, provoque la perte. Quand on dit perdre l'enfant, vous comprenez quelle tragédie. Imaginez Dieu qui a créé Lucifer, qui a créé les anges, qui ont accepté, qui l'ont accepté, et son leadership. Je dois les perdre. C'est douloureux, c'est catastrophique. Dès que vous dites division, vous sous-entendez la souffrance, la misère, la tension, le conflit. Moi, je peux dire quelque chose de la souffrance et de la tension. Le Québec, juste pour votre orientation, et j'aime beaucoup dire cela, probablement je l'ai dit trop souvent, le Québec, c'est trois fois plus grand que la France. Donc, quand on regarde, la France est grande pour l'Europe, mais par rapport au Canada, c'est même trois fois plus petit que la province du Québec, non pas de tout le Canada. Et mon pays, l'ex-Yougoslavie, était deux fois plus petit que la France. Alors, on va essayer de voir un peu les dimensions. Et l'ex-Yougoslavie, les gens qui vivaient là-bas considéraient que c'est trop grand et qu'ils trouveraient le bonheur dans la division. Et on a créé sept pays à travers quatre guerres. Et maintenant, imaginez, vous faites 200 kilomètres, c'est un pays, un autre pays. 300 kilomètres, un autre pays. C'est toujours comme ça. C'est tellement petit que ça devient incroyable, presque ridicule. Mais je sais ce que ça veut dire. Je connais les gens, personnellement, dans l'église, en dehors de l'église, dans mon école. Ce qu'on appelle aujourd'hui les couples mixtes. Quand il n'y a pas de guerre, tout va bien. Mais lorsque la bêtise humaine commence à travailler, ceux qui s'aimaient, tout à coup, se rendaient compte de la séparation incroyable. Une femme avec cinq enfants est partie visiter sa famille pour voir si tout allait bien, ne pouvait plus retourner. C'était impossible. Elle pensait qu'elle allait retourner, s'occuper des enfants et tout le reste. Quelle tragédie, quelle souffrance. Et c'est un peu cela quand on parle. On doit comprendre le concept de Dieu, qu'il devait trouver quelque chose, un pont qui va au-delà de la division, pour récupérer tous ceux qui sont avec lui, pour sauvegarder l'unité de l'univers. Or, s'il y a la nécessité indispensable de l'unité de l'univers, d'autant plus s'il y a la nécessité de l'unité dans le cadre de l'Église et de tout le reste. Quel malheur de comprendre quand j'étais à Wheaton College, pour écouter une présentation d'un évangélique connu. Il disait, nous avons fait la recherche entre 1990 et 2000, l'an 2000, quand on a analysé les créations des nouvelles églises aux États-Unis, on s'est rendu compte que 60 et quelques pourcents, j'ai déjà oublié combien, sont créés non pas à cause des efforts d'évangélisation, mais à cause des conflits humains. Je dis, quel malheur. Et on considère toujours qu'on va se séparer des frères et on va adorer. Et on va adorer quoi? Parce que Dieu ne dit pas dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, si tu as des problèmes avec ton frère et tu viens à l'église pour déposer ton offrande, change d'église ou crée une autre église pour ne plus le voir. Mais, premièrement, règle ton problème et ensuite tu verras. Alors, j'essaie de dépeindre un tout petit peu l'importance de l'unité comme objectif essentiel de Dieu et par conséquent aussi de ses leaders. Deux, L'unité sans uniformité signifie l'unité dans les choses essentielles. Et alors, j'aime beaucoup cette idée de l'unité sans l'uniformité. Et je suis d'accord avec ça. Parce que Dieu nous a créés tous différents. Regardez les plantes, elles sont magnifiques, mais chacune unique. Heureusement que nous sommes tous uniques. Et en comprenant l'univers comme l'univers en mouvement, je comprends que même chaque anniversaire que j'ai, j'en avais 56, c'est un événement unique. Ce n'est pas la répétition de la même chose. Parce que lorsque j'ai fêté mon 56e anniversaire, j'étais quelque part dans l'univers et une année auparavant, je ne sais pas combien de millions de kilomètres plus loin, etc., etc. Tout devient, tout peut être par Dieu. Il peut juste probablement, quand il va avoir son vidéo en trois dimensions, enregistrement de tout ce qu'on fait, il va pouvoir exactement connecter avec un moment précis, à sa manière. Il ne va pas dire 2012, juin, et quelque chose comme ça. Il va rendre unique chaque événement très facilement parce que tout l'univers est en mouvement. Et pour lui, il n'y a aucune difficulté de rendre cet aspect unique. Alors, pourquoi je dis, on parle que chacun a le droit d'être différent. Je suis d'accord. Sauf qu'au niveau des valeurs essentielles, nous devons être tous d'accord. C'est un peu ce que disait même Augustine, le père de l'Église, Augustine. Il disait, pour les choses essentielles, unité. Pour les choses secondaires, liberté. Pour toute autre chose, en toute chose, charité. Ce qui est vrai, ce qui est juste, c'est ce que je dis de nouveau. Quelle couleur de ma cravate je vais porter, c'est le problème de personne. J'étais un peu surpris lorsque j'étais à... Parce que j'ai étudié beaucoup l'éthique chrétienne. Et alors, comme j'ai connu une famille amish, alors je me suis dit, pour moi, ça va être très bien de parler avec eux. Et alors, quand je suis venu chez eux, j'ai profité de la belle nature, etc., et de me réjouir de leur style de vie. Mais en parlant, j'ai compris qu'ils ont des libéraux et des conservateurs.
Aussi.
Ah oui. Pour moi, ils étaient tous conservateurs, comme ça. Mais ils avaient... Alors je dis, mais est-ce que vous pensez comme ça? Non, ils sont trop libéraux. C'est le langage que nous utilisons aussi. Mais comment est-ce que vous voyez ça? Eh bien, vous savez, le col de la chemise peut être même avec la dentelle, l'ancien système, etc. Mais si c'est un peu plus pointu, c'est à la mode. Et si c'est un peu plus arrondi, c'est normal. C'est, vous savez. Et alors, ils se connaissent entre eux. Ils se voient tout de suite si quelqu'un est dans les normes ou s'il est trop progressiste, je ne sais pas comment dire. Vous comprenez l'histoire? Donc, nous, on a du malheur à trouver une entente entre tous les courants. Mais c'est un peu partout la même chose. Mais ça signifie que l'uniformité qui est négative en soi, ne provoquera pas à ce qu'on dise tout est différent. Tout ne peut pas être différent. Nous devons avoir les mêmes valeurs spirituelles. Sinon, il n'y a pas d'unité. C'est la raison pour laquelle il dit, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc, quand on, juste pour terminer pour cela, si nous sommes tous centrés sur le ministère de Jésus-Christ dans le lieu céleste, ben, on va réaliser tout cela et on va très facilement avoir comme résultat final l'unité.
Comment ne pas tomber justement dans l'écuménisme? Parce que des gens peuvent prendre ce même passage, pour dire qu'on a tous le même sentiment, un même amour, une même âme. Je comprends le principe, mais je vois aussi que ça peut amener une pensée que bon, ben, on va mettre les différences. Je veux dire, qu'est-ce qui définit les choses?
C'est vraiment ça est la question. Parce que pour moi, c'est très essentiel que tu portes une cravate rouge. Parce que ta cravate, ça me dérange, je ne peux rien entendre de ce que tu m'as. Tu comprends ce que
je veux dire? C'est ça, je sais.
Les gens sont comme ça. Et est-ce que c'est vraiment, il faut passer du temps avant d'essayer d'unir les gens? Est-ce qu'il faut passer du temps pour déterminer qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas essentiel?
C'est une très bonne question.
Et votre cravate ne me dérange pas.
Je vais vous dire, j'ai eu énormément de mal à mettre ma première cravate parce que je me trouvais toujours ridicule. Maintenant, je le porte presque tous les jours. Donc, j'ai dépassé ça. Mais juste pour vous dire l'origine de la cravate, qui est maintenant le symbole de reverence, comment on pourrait dire, de solennité quand tu t'habilles. Donc, c'est pas avec ça que tu vas jouer au soccer, mais c'est quelque chose de bien. Cravate vient du mot croate, si vous ne saviez pas. Croate, c'est un peuple qui fait partie de mon pays. Pourquoi on dit cravate ou comme les Allemands, cravaté, donc c'est à peu près la même chose, parce que cela faisait partie des habits folkloriques des Croates. Et alors, petit à petit, on a utilisé cela. Mais qu'est-ce que c'était avant? C'était un peu plus large et ça servait à se nettoyer après un repas succulent ou quelque chose comme ça. Et donc maintenant, c'est devenu le signe de solennité. C'est la manière des hommes, mais je comprends. Et je ne suis pas croate, mais je n'ai aucun problème de le porter. Mais je considère que ces effets extérieurs de solennité, c'est l'entente entre les hommes. Et ce n'est pas ça qui crée la solennité. La solennité se crée quand on vit dans l'atmosphère qui est comme cela. Et lorsque c'est comme cela, donc si c'est comme ça, ça devient peu important. Maintenant, tu veux le dire?
L'étude de la parole est à quel point telle ou telle doctrine c'est importante d'en parler dans le message tout en pointant les yeux vers Jésus-Christ, etc.
Voilà, je donne un exemple concret pour aller dans le même sens. Je peux dire que je prêche au moins 40 fois par an, un peu plus. C'est minimum. Quand j'étais dans les églises yougoslaves, on prêche 5 à 6 fois par semaine. Ben ici, c'est différent. Ici, on prêche une fois. Si j'analyse, en général, je viens dans une église pour toute la journée. On a les comités le vendredi, on a le comité le dimanche, mais la journée, c'est le samedi avec les frères et sœurs. Et quand je suis avec eux, je passe le potluck l'après-midi. Je peux vous garantir que sur 40 sabbats, disons comme ça pour arrondir, sur 40 sabbats, il y a peut-être 2 ou 3 sabbats par an où les gens me posent des questions spirituelles pendant le potluck ou après le potluck. Alors que nous aurions toute la liberté d'avoir la même pensée le jour du sabbat et de dire, allez, on va ouvrir la Bible, mais qu'est-ce que tu penses à propos de, je ne sais pas, Jean 4, l'adoration en esprit en vérité. Ça ne se passe pas. Si on a des réunions, l'après-midi, bien sûr, on pose la question. Mais ce n'est pas spontanément que la Bible ou Jésus-Christ ou Dieu deviennent objet de nos pensées. Ce n'est pas spontanément. Et ça n'aide pas. Parce que presque on comprend alors que le moment du culte ou de la prédication, ah ben ça fait partie de la tradition qu'on va faire, mais ensuite on retourne sur le fonctionnement normal de notre être. Donc, on pense aux habits, aux vacances, aux je ne sais pas quoi. On raconte quelle est la maison que quelqu'un a achetée, ou je ne sais pas, l'examen qu'il a réussi, etc. Mais on ne se connecte pas. Parce que, comme dit Jésus, là où est ton trésor, là aussi. Donc, quelque part, je suis tout à fait d'accord avec cette difficulté-là. Cependant, je dis, comment est-ce qu'on va définir ce qui est essentiel? Moi, je le définis à la manière biblique et à la manière d'Ellen White, à la manière de nos pionniers, à la manière de ce que l'Église adventiste professe aujourd'hui. Nous considérons que, premièrement, parce que c'est trop large, nous considérons que la Bible est la seule règle de foi. Ensuite, nous considérons que la loi de Dieu est éternelle. Ensuite, nous considérons que les 13 questions pour le baptême et les 28 croyances fondamentales ont été votées par l'Église entière pour servir comme une expression du contenu de la Bible et de la compréhension du salut. Donc, quelque part, lorsque quelqu'un s'engage, lorsque quelqu'un entre dans l'alliance avec Dieu, il dit 13 fois oui. 13 fois. Donc ça, c'est son engagement. Pour moi, le baptême est essentiel. Et tous ceux qui veulent avoir des références sur essentiel doivent se rappeler de ce qu'eux, ils ont dit eux-mêmes. Oui, peut-être pour certains, c'était juste la forme. Peut-être ils ont fait parce que ils ont trouvé une jolie fille dans l'église et ils se sont dit, elle ne sera pas ma femme sans que je devienne adventiste. Peu importe comment c'est, plus de 15 millions ou 16 millions d'adventistes, ils ont tous dit oui à 13 questions, ce qui signifie qu'ils acceptent les 28 croyances fondamentales. C'est la raison pour laquelle nous disons que tous les adventistes devraient considérer comme essentiel l'attachement à la parole de Dieu et plus exactement, si on veut dire, l'attachement à l'enseignement de la Bible qui est bien exprimé dans un commandement, aime ton Dieu comme de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, et ce qui signifie aussi non pas seulement cet amour ou la règle d'or, on pourrait imaginer ce que c'est, mais de cela, c'est un résumé des 10 commandements. On ne peut pas éviter de le dire parce que c'est dans la Bible un peu partout. Donc, si la loi de l'amour devient essentielle, et si les 13 questions et les 28 croyances fondamentales restent essentielles pour nous tous, je vois difficilement que quelqu'un qui parle de ces choses essentielles pourra nier un de ces éléments. Il y a difficulté. Par exemple, nous n'avons pas de confession de foi. Et nous disons exprès que nous ne voulons pas. Quand vous lisez le Church Manual, nous disons l'Église adventiste n'a pas de credo. Parce que le credo signifie, je résume, c'est ce que je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Puis pour le reste, chacun fait comme il veut. Mais nous, on dit, je crois, ce sont les 13 questions, mais ça n'est pas, ça c'est notre compréhension de ça. Parce que c'est ça pour nous, la référence. Le reste, c'est juste un essai de rendre compréhensible pour tout le monde ce que nous, on croit. Donc, je vois difficilement que quelqu'un qui parle des choses essentielles et qui dit il faut qu'il y ait l'unité sur cela, je vois difficilement qu'il pourrait négliger ni la loi de l'amour, ni les 13 questions et les 28 croyances fondamentales. Sinon, on se contredit. Bon, tout le monde s'engage, oui, 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 oui. Puis après, on va au potluck et me dit, oh non, c'est pas ça, ça c'est... Vous savez comment c'est. Donc ça, c'est pour moi, je le considère comme minimum.
Je pense que c'est bien ce que vous avez dit, parce qu'on réfère des gens à leur propre engagement.
propre engagement. Exactement. Exactement. C'est toi qui as dit ça, c'est pas moi, c'est toi qui t'es engagé. Donc en fait, quand on se rappelle, pour ne pas rester longtemps, parce que sinon c'est très très long, ce que je veux dire, je me rends compte, oh là là, c'est déjà 20. Dieu ne connaît pas des libéraux et des conservateurs. Moi je dis comme ça, parce que je suis sûr. Pour lui, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Il n'y a pas de parti dans l'Église. Alors que dans la réalité, il y en a. Vous voulez connaître un peu plus les libéraux, ben vous allez sur Internet, vous connaissez les pages qui sont là. Les États-Unis à l'ouest sont un peu plus comme ça. Les États-Unis à l'est sont un peu plus comme ça. Et quand, avant de commencer le vote à la conférence générale, je vois les gens, ils disent, ah oui, Australie, Trans-European Division, Euro-African Division, North American Division vont voter comme ça. Et les autres, ils vont voter comme ça. Donc on sait déjà, on a tout le tableau, alors que la Bible dit très clairement, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Donc, on ne divise pas le corps du Christ, parce que le prix a été tellement élevé qu'on ne peut pas se permettre le luxe que la tête soit sacrifiée et qu'on accepte la division. Parce que la tête a été sacrifiée pour qu'il y ait l'unité dans le corps. C'est énorme, c'est énorme. Et je me pose la question, comment est-ce que cela est possible? L'unité ne peut pas être réalisée sans l'humilité. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Moi, j'appelle ça l'expression idéale de l'amour sacrificiel. Parce que, en général, quand je parle de l'amour, ou si je parle agapé, je dis toujours sacrificial love. Parce qu'aujourd'hui, l'amour ne signifie presque rien. Et la seule chose qu'on peut comprendre, c'est qu'on se sacrifie. Et un vrai leader, il est automatiquement celui qui fait ça. Qui regarde les autres comme étant au-dessus de lui-même. Ça pose problème pour certains. Mais lorsqu'on va au pied du maître, on va se rendre compte qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que l'univers est dirigé par l'esprit de service, de sacrifice, et non pas par l'esprit de supériorité. On sait, comment dirais-je, le sacrifice de Jésus sur la croix est devenu nécessaire pour combattre l'esprit de Lucifer qui était... Voilà. Presque tous les jours. Je dois le dire que c'est comme ça. Un exemple concret. Ben, j'essaierai de ne pas prendre des choses que vous connaissez. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Parce que c'est très récent. Ah, voilà. Qu'est-ce que je pourrais donner comme un exemple? Voilà. Je me rappelle d'une situation lorsque je suis venu dans une église. Le président de la fédération m'avait dit, cette église se déclare comme officiellement comme église charismatique adventiste. C'est ce qu'ils ont dit. Je vous parle vrai, mais c'est comme ça. Les deux derniers pasteurs ont essayé de faire quelque chose. Un a déménagé lui-même, et le deuxième a été chassé du dernier comité de l'église. Alors, on a pris la décision avec la fédération de vous envoyer pour un an. Et ça, c'est la dernière chance qu'on leur donne. Sinon, après, on va, comment on appelle ça, to disband the church. On va radier l'église, si on peut dire comme ça. Et alors, c'était pas évident pour moi. Et je me rappelle de... J'arrive un mercredi et le soir, il y avait le comité. L'ancien a déjà préparé l'agenda. Je me suis dit, si maintenant je commence à dire, donne-moi ton agenda. Je ne sais même pas, le pasteur avant moi a été jeté dehors. Qu'est-ce que ça va donner? Il vaut mieux que je commence à dire, écoute, vas-y, fais-le, je vais observer, regarder, parce que je ne vous connais pas. Et vous avez déjà tout préparé. Ils commencent et ils disent, je vois sur l'agenda un point, onction et, comment on appelle ça, onction d'huile et, j'essaie de traduire comment ça se dit, imposition des mains. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas habituel de trouver des choses comme ça. Et quand le point est venu, l'ancien dit, est-ce que tout est prêt pour l'onction? On aura ça dans 15 jours. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Alors, je pose la question. Et ils me disent, ah non, non, tout est bien, nous avons déjà tout organisé, pas de problème, tout le monde est prêt, ça sera une bonne expérience. Et ils continuent. Donc je vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche au minimum selon la perspective adventiste. Alors je dis, écoutez, j'ai une très grande joie d'être votre pasteur et je ne veux pas perturber le fonctionnement normal. Par contre, demain, je vais rencontrer mon président et j'aimerais bien dire quelque chose parce que chez nous, quand on fait l'imposition des mains, on fait pour des choses bien précises, si quelqu'un est malade ou si quelqu'un est un leader, si quelqu'un va devenir diacre ou ancien ou pasteur, ben on fait cela. Ou si quelqu'un part en mission pour faire une action très particulière, on se rencontre, on impose des mains, parce qu'on sait qu'il va peut-être perdre sa vie si Dieu n'est pas avec lui. On demande une action spéciale de l'Esprit-Saint, mais pour le reste, on ne connaît pas. Alors, si c'est une de ces choses, moi, j'aimerais bien connaître, parce qu'il va me demander mon président. Et puis, on commence à tourner autour, et je me suis dit, il vaut mieux qu'au début, on commence à fonctionner normalement, sans m'imposer. J'ai dit, moi, je ne peux pas partir ici sans connaître. Eh bien, j'ai compris que deux personnes étaient là parce qu'il y avait trois candidats pour l'imposition des mains et l'onction d'huile. La première personne, c'était la trésorière de l'église. Pasteur, j'ai senti le besoin de recevoir l'imposition des mains parce que on vient d'étudier dans l'école du sabbat sur les dons spirituels. Et j'ai compris que j'ai le don de l'hospitalité. Et j'aimerais que l'Église reconnaisse ce don d'hospitalité par l'imposition des mains. Comme ça, je serai sûr que l'Esprit est avec moi pour exercer mon ministère de l'hospitalité. Quels sont les deux autres, je demande, parce que je ne voulais pas dire tout de suite. Parce qu'après, si je réagis, les autres ne diront même pas qui. Alors, quel est l'autre? C'était un des anciens. Ils avaient trois anciens. Il y a un ancien qui dit, ça fait déjà 25 ans que je suis ancien, consacré. J'ai travaillé, j'ai donné le meilleur de moi-même. Malheureusement, les cinq dernières années, financièrement, j'ai fait la faillite. Ma femme est gravement malade. J'ai eu un accident de voiture frontale à 100 km à l'heure. Il portait le Minerve, comment on appelle ça? Celui qu'on met autour de... Comment? Collet cervical, voilà. Je crois qu'on dit, nous, en France, Minerve. OK, bon. Collet cervical. Et puis, au travail, ça ne marche pas bien, il va perdre, etc. Alors, tout s'écroule dans ma vie. Et alors, toutes mes batteries sont plates. J'aimerais que par l'imposition des mains, Dieu, à travers son esprit, recharge mes batteries. OK, quelle est la troisième personne? apparemment, cette personne n'était pas là. Et je dis, ben, vous continuez, donnez-moi le téléphone. J'aimerais parler parce que, qu'est-ce que je veux dire? J'aimerais au moins voir l'image. Et je sors dehors et je parle avec quelqu'un au téléphone et je comprends que celui-là n'est même pas baptisé. Et alors, son histoire est la suivante. Ça fait 6 mois que j'étudie avec cette ancienne église dont je vous ai parlé. Et apparemment, au début, j'étais enchanté. L'Esprit de Dieu était à l'intérieur de moi. C'était comme un feu dévorant, etc. Puis après, j'ai perdu envie. Et maintenant, ça ne m'intéresse pas du tout. Et j'aimerais, à travers l'imposition des mains, que l'Esprit de Dieu prenne possession de moi afin que je puisse vraiment trouver beaucoup de joie de devenir adventiste. OK. Maintenant, il fallait que je retourne et que je leur explique. Bon, je leur ai expliqué à ma manière. Je leur ai dit, écoutez, je vous comprends que vous avez envie d'avoir une action particulière du Saint-Esprit. Et je comprends aussi que vous pensez que ça sera un bon témoignage pour les autres et même pour les adventistes. Mais l'Église adventiste ne fait pas ça. Et quand on parle de l'unité dans l'esprit, on comprend ce que ça signifie. J'aimerais vous conseiller d'écrire tout ça sur une page. Envoyez-nous et nous, on va discuter, on va laisser tout cela entre les mains de la conférence générale. Et si ce même esprit qui pense que c'est tellement important pour vous veut à ce que toute l'Église le fasse, on va le faire, mais on va le faire dans l'unité, parce que sinon, je ne vois pas comment l'Esprit pourrait travailler dans la division. Sinon, il y aura une Église ici, une autre au Brésil, une troisième, etc. etc. Puis, ils ont accepté. Mais ça, c'était... Ils ont reporté le service de l'imposition des mains et de l'onction de l'huile. Et puis, après, le travail le plus difficile a commencé. C'était le travail avec des leaders. Et ça, je n'ai jamais eu le besoin de travailler avec eux dans l'humilité. C'était la seule approche qui pourrait fonctionner. Et je me rappelle qu'eux, ils étaient toujours en train de presque danser pendant le culte d'adoration. Et j'ai dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je ne peux pas leur dire 150 choses qu'ils doivent changer. Donc, il faut changer une chose après l'autre. Parle-moi, je ne sais pas quoi. Et j'avais presque peur de venir sabbat à l'église parce qu'il y avait tellement, je vous dis, il y a tellement de choses qui sont totalement différentes. Et Dieu m'a ouvert la porte. Un ancien a fait sa profession de foi le jour précédent quand on avait parlé ensemble avec le comité. Il était en 100% charismatique, 100%. Et j'ai prié, j'ai écouté, très humblement, sans rien dire. Et le lendemain, Dieu était tellement bon. J'arrive à l'église pour l'école du sabbat. C'est déjà j'étais dans le couloir, parlant avec les gens, et j'entends le chant. J'entre et je m'assieds, c'est-à-dire je suis debout, je chante avec les autres, et les deux anciens sont devant moi. Et ils ont les mains comme ça, ils bougent un tout petit peu. Et tout à coup, l'un d'eux, il dit à l'autre, « Qui c'est qui fait les offrandes ?» Tout en chantant. Ouais. Et l'autre, il chante, il dit le nom de celui qui fait des offrandes. Mais est-ce qu'on a trouvé celui qui va faire le rapport missionnaire pour l'école du sabbat ? Donc, tout en chantant, avec les mains levées, etc. Eh bien, pendant tout le chant qui était un peu long, parce qu'en général, leurs chants sont longs, les services de song service, comme on appelle, ça peut durer 20 minutes, 30. Ils ont tout le temps bavardé tout en chantant. Et puis ensuite, quand tout s'est terminé, je leur ai dit, est-ce que j'aimerais bien parler avec vous? Et je dis, vous parlez de l'esprit, vous parlez de l'adoration, vous parlez de tout le reste. Mais l'esprit m'avait dit qu'il faut que je vous parle. Parce que quand vous levez les mains, ça signifie que vous voulez être dans une connexion étroite. Et si j'ai entendu bien ce que vous avez dit précédemment, vous considérez les autres qui ne font pas cela comme n'étant pas au même niveau spirituel de participer à l'adoration. Alors qu'en même temps, vous avez réglé le problème des offrandes, je ne sais pas, de rapports missionnaires, de plein de choses qu'ils ont dit. Tout le culte a été organisé pendant le song service. Ce qui voudrait dire que votre participation était une pure formalité. Et j'ai dit, j'emploie ce mot « pure formalité » parce que je sais que vous le détestez. Et tous les mains qui bougent, la danse, etc., c'est pour montrer combien vous êtes attaché à Dieu et vous voulez éviter la formalité. Et vous êtes vous-même tombé dans le même problème. Essayons ensemble de voir comment adorer, non pas par pure formalité, mais en esprit et prière. Et on a commencé à partir de là. Et Dieu était bon. Je veux dire, les trois derniers mois que j'ai passé là-bas, avant qu'il y ait l'examen, après je suis resté encore avec 2 ans avec eux, mais avant l'examen par le comité de la fédération, était une pure merveille. Il fallait juste trouver la voie pour commencer la discussion. Et Dieu était tellement bon. Et je me suis rendu compte que si j'avais, parce que j'avais vraiment envie d'exploser le soir avant, parce que j'ai entendu des bêtises. Et je me suis rendu compte après que Dieu m'a appris, si les gens ne te demandent pas ce que tu penses, ne le dis pas à moins que l'Esprit te le dit de le dire. Mais si tu ne dis rien, mais tu es toujours fidèle à tes convictions, à tes valeurs, à l'enseignement de la Bible, Dieu te trouvera tôt ou tard, mais très tôt, je sais, la possibilité de le dire avec encore plus de force. Parce que la qualité de Jésus, c'est que il savait non pas seulement de dire des choses magnifiques, mais de les dire dans un temps qui convient le mieux. C'est à peu près cela. C'est toute la Bible. Et cet exemple, j'étais tellement triste à la fin du comité du vendredi soir. Je dis, mon Seigneur, mais est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Et quand même, tu te dis, bon ben, ils vont voter non, ils vont plus être église adventiste. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a tout fait. Mais à l'intérieur de vous-même, vous connaissez les gens, vous dites, mais c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Et vous luttez, vous dites, est-ce qu'il fallait que je dise? Est-ce qu'il fallait? Mais au moment où je voulais le dire, j'étais remonté à, je ne sais pas, à 180 km à l'heure, je voulais parler et puis de dire tout ce que je pense. Et j'ai rien dit. Et encore aujourd'hui, je remercie le Seigneur que le lendemain, il m'a donné la possibilité de commencer la discussion parce que c'était très difficile de commencer la discussion. Voilà, c'était une longue expérience. Mais c'est pour dire, l'humilité, ça peut se faire uniquement avec le Seigneur. Ça ne peut pas se faire, soyons humbles, ça ne marche pas. C'est uniquement si vous marchez avec le Seigneur, ça peut transparaître, que ça ne soit pas artificiel. On ne s'humilie pas juste pour s'humilier, on s'humilie pour écouter la voix de Dieu. C'est Dieu qui est en contrôle de tout, et lui, il fera le mieux. Ben, je suis désolé pour les autres. Je peux vous donner, si vous voulez, le compte-rendu. Vous voulez que je vous envoie ou que je vous... Comment est-ce qu'on fait? Voilà. Mais à la fin, je vous donnerai les 4. Si vous voulez partir, il n'y a pas de problème. Et puis, on s'arrête là, non? C'est bien ça, la fin? Pardon? Maintenant, il est 43. Si vous voulez, je peux encore, mais j'ai compris, c'est jusqu'à 11h30. L'unité se réalise uniquement lorsqu'on imite Jésus-Christ. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, mes sentiments ne peuvent pas être, vous voyez ce qui est marqué ici? Ça. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée ne peut pas se réaliser si nous n'avons pas les sentiments, l'amour et tout cela, et la pensée de Jésus-Christ. C'est à travers lui qui était en Jésus-Christ. Un leader qui contribue à l'unité ne se préoccupe pas de son statut, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Si dans votre vie c'est un drame, si vous n'êtes pas réélu comme ancien, comme pasteur ou que selon votre position, ben c'est que vous devez vous poser la question sur vos motivations. C'est que quelque part, quelqu'un m'avait demandé, j'étais pendant 7 ans responsable de Personal Ministries en France. Et après, je n'étais plus réélu. J'étais donc 2 fois, 1 fois 3 ans, 1 fois 4 ans. Puis il y a quelqu'un qui me dit, mais c'est injuste, ils pouvaient te reconduire, mais comment est-ce que tu vas maintenant te débrouiller, t'adapter? Écoute, il n'y a pas de problème. Non, il faut que tu dises la vérité. Écoute, j'étais pasteur avant d'être personal ministry director. Je vais continuer à être pasteur, même si je ne suis pas pasteur. Avant d'être pasteur, j'étais membre d'église, je vais toujours être membre. J'ai pris l'engagement pour le Seigneur au moment du baptême comme un jeune homme. Eh bien, je suis fidèle à cet engagement. Je ne suis pas plus fidèle à ma position qu'à mon engagement. C'est un peu comme ça. Parce que autrement, sinon, on totalement change des choses. Mais il s'est dépouillé lui-même. Donc l'exemple de Jésus nous montre que le dépouillement de soi précède la réalisation de l'unité et de notre ministère en tant que leader. On ne peut pas faire autrement. Allez, je m'arrête là parce que j'aime pas vous. Pardon? C'est maintenant?
11h45.
Oh, si vous n'avez rien contre, je peux juste très brièvement vous présenter. Mais il s'est dépouillé lui-même. Si un Dieu tout-puissant avait besoin pour faire son ministère parmi nous, de se mettre totalement au niveau de ses créatures, combien plus je dois me mettre au niveau de mes membres d'église, au niveau de ceux qui sont dans mon comité, parce que sinon, en gardant ma supériorité, je vais jamais créer l'unité. C'est impossible. L'unité n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont plus de responsabilités, ils ont besoin de plus de l'humilité. Plus on vous donne d'importance, eh bien, plus vous devez rester humble. Sinon, vous ne contribuez pas à l'unité du corps du Christ. En fait, Jésus a dit, celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit le premier, comme c'est sous-entendu dans le grec, le premier votre serviteur. Donc, et je vous dis, comme j'étais choqué, on m'avait donné la job description de président ici quand je suis venu au Québec, et je lis à l'Union, donc c'est à l'Union que j'ai reçu job description, et je lis, je crois que c'était le 3e paragraphe, le président de la fédération doit être considéré comme primus inter pares. Et j'ai dit, mon Dieu, pourriez-vous changer cela? Parce que primus inter pares est exactement la description du pape. Je vous dis exactement, primus inter pares, le premier parmi les égaux. Quand on définit le ministère de l'évêque de Rome, comme on l'appelle, on le définit qu'il est parmi les égaux, mais le premier. C'est-à-dire, c'est de là vient la primauté du pape. Ben, je veux dire, vous avez pu trouver n'importe quoi d'autre. Pourquoi est-ce que vous avez même marqué en latin primus inter pares? C'est tellement... ça prête à confusion et ça me met tellement mal à l'aise. Mais on fait comme ça parce que c'était comme ça. C'est pas nous qui avons fait, c'était avant. Et pour dire, quelque part, nous pouvons vivre dans la confusion. L'autorité de notre fonction ou de notre ministère ne provient jamais de la position, provient toujours de Dieu. Parce que sinon, je ne sais pas, c'est impossible de s'imaginer autrement. L'unité ne peut pas se réaliser, excusez-moi pour les fautes de frappe, que par ceux qui sont serviteurs, en prenant une forme de serviteur. Donc, la condition sine qua non, et je vais vous dire ça lors de la quatrième présentation, vous savez, en hébreu, comment on dit serviteur? Le mot est nahar, N-A-A-R. Et vous avez un virgule entre, mais ce n'est pas important, c'est la transcription d'hébreu. Nahar a deux significations pleinement, serviteur et jeûne. Quand vous dites jeûne.
Dans le sens de jeûner
pas manger? Non, un jeûne comme lui, comme toi. Jeûne, un jeûne se dit nahar et un serviteur se dit nahar. C'est exactement la même chose qui signifie deux choses. Donc quand on dit le jeune Samuel, on peut traduire le serviteur Samuel. Donc, jeune signifie, c'est le synonyme de service. On commence comme ça. C'est normal dans leur société et à l'intérieur du corps du Christ. On est d'abord serviteur et après tout le reste. C'est d'ailleurs pour cela que l'apôtre Paul n'oublie jamais de rappeler les gens auxquels il écrit. Il dit pour serviteur, premier, et puis après, on va parler de tout le reste. De temps en temps, il défend son apostolat, mais il va d'abord commencer avec le serviteur, puis après, il va expliquer autre chose. Tu voulais dire quelque chose?
Non, je voulais dire ça parce que ça vient me mettre un peu plus de lumière, par exemple, sur comment Élisée est rentrée dans, dans la scène.
C'est ça, exactement. Et très brièvement, l'unité ne peut pas exister sans ce que j'appelle, je ne sais pas comment dire correctement en français, sans l'humanisme, c'est-à-dire le respect de l'être humain. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, c'est-à-dire celui qui sert, il doit toujours s'identifier à l'autre. Quelle que soit sa situation, quelqu'un a divorcé, il faut essayer de le comprendre. Même si quelqu'un a fait des bêtises, j'ai donné des études bibliques à quelqu'un qui, pendant la guerre en Bosnie, a tué plus de 200 personnes. Et il dit, pasteur, j'aimerais bien qu'on puisse se rencontrer plusieurs fois, j'aimerais bien avoir des études de la Bible, parce que j'ai compris, donc il a connu l'Église à travers ADRA, et le bon travail qu'ils ont fait là-bas, et il est venu régulièrement à l'Église, mais il n'a jamais voulu, peut-être même 5 ans après la guerre, il n'a jamais voulu s'engager et devenir adventiste, et il a reconnu, parce qu'il considère qu'il a fait des choses qui sont impardonnables. Dieu ne peut pas lui pardonner. C'était difficile pour moi, parce qu'il a tué des gens pour un mauvais regard. Ça ne lui plaît pas, il tue. Il a même participé dans les, comment on appelle ça, ils ont tué, égorgé tout un village, et ils ont pris les yeux de tous les gens, ils ont mis dans un seau, et ils ont envoyé ce seau à la présidence de la Bosnie. Et ils ont laissé un message bizarre ou quelque chose comme ça. C'est ce qui vous arrivera si vous continuez comme vous faites. N'importe quoi. Quand vous essayez d'imaginer, donc il dit qu'il n'a pas rempli le sceau Dieu, mais il a contribué. Il a aussi pris les yeux des gens. Et puis vous dites, est-ce que c'est une bête ou un homme? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et il dit, moi je ne peux plus dormir normalement. Il dit, maintenant, quand je me réveille, je suis dégoûté de moi-même. Alors vous pouvez comprendre comme la chose est grave. Et comment dirais-je, je ne peux pas dire si c'est à 100% qu'il a accepté de faire cela. Mais après avoir étudié la Bible, il est allé au commissariat, et il s'est déclaré lui-même, donné son identité. Il a vécu très longtemps. Il a tué une personne qui a travaillé en Autriche qui est venu en Bosnie pour aider sa famille pendant la guerre. Il a tué, il a pris ses papiers et il est parti vivre en Autriche. Et c'est comme ça que je l'ai connu quand j'étais pasteur à Vienne. Et il s'est rendu aux autorités, mais les autorités ont, afin de, comment dirais-je, œuvrer pour la paix, ils ont fait une comment on appelle ça, amnestie, sauf ceux qui vont être obligés d'aller au tribunal de la haie, comment on appelle, en Hollande, aux Pays-Bas. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec lui. J'ai eu beaucoup d'études de la Bible, mais je me suis rendu compte qu'il faut se mettre dans la tête de ceux qui sont en face de nous, quel que soit leur niveau, même s'ils sont très haut, très bas. C'est la seule solution. C'est la seule solution. L'unité sous-entend l'obéissance. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Donc, si Jésus a œuvré pour l'unité de l'univers en se rendant obéissant, ça serait étonnant d'avoir des leaders qui n'obéissent pas. Parce que quelque part, au-dessus d'un leader, il y a toujours un autre leader. Heureusement que c'est comme ça. Et moi, je dis, imaginez que vous êtes même le président de la conférence générale. Au-dessus de vous, c'est le conseiller annuel de l'Église adventiste. Et au-dessus du conseil annuel, c'est l'assemblée de toute l'Église, ce qui voudrait dire, vous devez toujours rendre vos rapports. Je dis, celui qui ne rend rapport à personne, il est vraiment au-dessus de tout le monde, mais ça n'existe pas. Même dans le cadre de l'Église ou à l'extérieur, un président, il rend son rapport régulièrement. Toutes les autorités sont obligées de faire leur rapport tout simplement à quelqu'un. Ce qui voudrait dire que l'obéissance est indispensable. Dans mon pays, on dit toujours, parce que le prêtre se dit en Russie « pop ». C'est ce que nous disons, le « pop ». Et nous, on dit « au-dessus d'un pop, il y a toujours un pop ». Donc, ce qui voudrait dire chez nous, ça signifie ne pense pas que tu es au-dessus de tout, parce qu'il y a, même là où tu es, il y aura toujours quelqu'un. Et cette obéissance, non pas seulement aux autorités supérieures, mais en général au corps du Christ, est indispensable. L'unité marche lorsque Dieu élève ses serviteurs pour la gloire de son nom. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus est le leader au-dessus de tous les autres leaders. Et s'il fait son leadership, il le fait pour une raison, et que toute langue confesse, pour une raison, à la gloire de Dieu le Père. Donc, le nom le plus élevé, qu'on peut dire maintenant, parce qu'il s'est dit, sur la terre et sous la terre, dans les cieux, etc., c'est le nom de Jésus. Mais si c'est cela, et si tout le monde fléchisse le genou, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, on le fait avec un but, de rendre gloire à Dieu le Père. Ce qui voudrait dire qu'en leadership, devrait être toujours centré sur rendre gloire à Dieu. Donc, pas rendre gloire aux copains, aux groupes, aux, peu importe. On ne se bat pas pour nous, pour notre famille, pour notre ethnie, ou pour notre je ne sais pas quoi. Ce n'est pas dans la négociation des intérêts humains qu'on pourrait trouver le vrai leadership. Parce que c'est ce qu'on pense toujours. Ah, il faut... Et je suis très souvent un peu triste de me rendre compte que certains assemblées sont plutôt des négociations. Et j'ai l'habitude de leur dire ce que disait mon prof lorsque j'étais à Collonges, qui répétait assez souvent, Et je le répéterai pour vous, il a dit, si vous voulez vraiment connaître une église, n'allez pas à leur culte d'adoration. N'allez pas à leur série d'évangélisation. N'allez pas à leur réunion de prière. N'allez pas à leur réunion des jeunes. Parce que eux, ils savent bien faire ça. Ils vont organiser que ça fonctionne très très bien. Si vous voulez vraiment les connaître, visitez-les pendant leur réunion administrative et pendant leur comité d'église. Et vous allez comprendre de quelle église il s'agit. Alors, si leur réunion d'administration, ou ce qu'on appelle business meeting, et si leur comité sont à propos de l'unité, de service, d'obéissance et de tout le reste, c'est une bonne église. Sinon, vous savez où vous en êtes. La meilleure démarche pour les acteurs de l'unité est le travail sur le salut avec crainte et tremblement. Quand on dit ici, ainsi, ce qui veut dire, puisqu'on a déjà cité tout le reste, puisqu'on a évoqué le meilleur leadership possible, c'est-à-dire le Jésus-Christ, ainsi, comme conséquence de tout ce qu'on vient de dire, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. J'aimerais vous rappeler que, imaginons que vous avez au cours d'une journée 3 heures à passer pour le leadership. Imaginons. Quelle que soit votre position ou votre tâche dans l'Église, je vous conseille vivement à ce que de ces 3 heures, vous ayez au moins 1 heure où vous allez travailler à votre salut, avec crainte et tremblement. Sinon, vous allez trop travailler selon vos capacités, vos dons, votre expérience du passé et tout le reste. Et lorsque vous travaillerez, puisque vous avez tout cela, tout ce qu'on a mentionné, l'unité, etc., lorsque vous allez venir à l'essentiel, c'est-à-dire comment vous devez vous comporter, la première chose, travailler à votre salut. Donc, le leader va premièrement s'occuper de sa vie éternelle. Parce que s'il perd sa vie éternelle, ça va être comme l'apôtre Paul qui dit, je prie Dieu afin que, en prêchant aux autres, vous connaissez l'histoire, je ne sois pas éliminé moi-même. C'est à peu près cela. Et le meilleur superviseur est celui qui se supervise aussi soi-même. J'ai toute une présentation longue là-dessus, mais je donne juste les textes de la Bible, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je suis un leader et j'ai reçu de faire quelque chose, je le fais pas seulement le samedi quand tout le monde me voit, mais je le fais même lorsque je suis tout seul à l'intérieur de ma chambre, lorsque les yeux humains n'ont aucun accès. Comme quelqu'un avait dit en France, le gendarme le plus efficace n'est pas celui qui est sur la route, mais celui qui se trouve à l'intérieur de notre tête. Donc, lorsqu'on voit un gendarme à l'extérieur, tout le monde conduit raisonnablement. Et je me rappelle une fois quand j'étais à Tennessee, à Southern University, on sort et on entre sur l'autoroute et je vois la voiture de la police et beaucoup de voitures. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de voitures juste derrière. On dirait c'est comme un cortège de célébration de quelque chose, wedding ceremony. Et on avait fait ça peut-être pendant 20 minutes. L'autoroute fait comme ça. Et je regarde de mon côté, et on était 4-5 dans la voiture, on a rigolé, parce qu'on a vu que tout le monde conduisait tout doucement en attendant que la voiture de police disparaisse. Mais c'est pas comme ça que les chrétiens ou les leaders à l'intérieur de l'Église fonctionnent. Ils fonctionnent en présence des responsables, mais même surtout bien plus encore lorsqu'on est tout seul. On est toujours leader. Et c'est là où on montre ce qu'on est véritablement. Et probablement, même pas à la fin. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le moteur unique de toutes nos actions et Dieu lui-même. C'est E-S-T, et Dieu lui-même. C'est lui qui produit. Alors, c'est la raison pour laquelle à la fin de l'année, on fait le rapport. Moi, je fais toujours mes rapports régulièrement, mensuellement, mais annuellement, je fais un rapport à mon comité de l'Union. Mais j'essaie toujours de les rappeler que ce n'est pas nous qui avons travaillé. Ce n'est pas à nous que l'honneur vient, parce qu'on a l'habitude de plus en plus. On écoute des discours élogieux par rapport à ceci et cela et cela. Et ça commence presque à me fatiguer, parce qu'avant que le culte commence, par exemple, on va parler de plein de gens et de tous les merveilles qu'ils ont accomplies, etc. Mais en fait, toute la gloire revient à Dieu, parce que nous, on existe pour mettre en avance Dieu, et on a énormément de joie de le faire avec sa puissance. Je m'arrête là, il vaut mieux, parce que sinon c'est le temps qui... Je pense que c'est maintenant midi.
Oui.
Non. Que Dieu vous garde, soyez courageux et passez beaucoup de temps dans la parole de Dieu. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour que vous soyez des leaders efficaces. Il n'y a pas mieux que ça. Prière, jeûne, la Bible, et Dieu vous bénira.